Donc, le thème que j'aborde cet après-midi, c'est le thème qui annonce tout ce qui va suivre. Je passe provisoirement, ce sera pour demain matin, les 6 premiers paragraphes qui donnent le contexte dans lequel cette encyclique est née. Mais cet après-midi, je vais parcourir les paragraphes 7 à 9 et même 10 à propos de l'imbrication mutuelle de l'amour et de la fécondité et la question de la procréation responsable. Et ce sera, je pense, relativement bref, si bien nous avons du temps pour d'éventuelles questions que vous voudriez poser concernant les thèmes que nous avons déjà abordés. Pas ceux qui viendront après, mais ceux que nous avons déjà abordés. Donc je prends le paragraphe 7 dans Humanae Vitae, qui est une toute petite encyclique. À cette époque-là, on écrivait encore des encycliques brèves. Maintenant, c'est chaque fois 250 pages. À l'époque, c'était plutôt bref. Comme tout autre problème concernant la vie humaine, le problème de la natalité, de la parenté responsable, donc, doit être considéré au-delà des perspectives partielles, qu'elles soient d'ordre biologique, ou psychologique, démographique ou sociologique, donc dans la lumière d'une vision intégrale de l'homme et de sa vocation. Donc, tous les aspects qui sont mentionnés ont un rôle à jouer, on ne les nie pas, mais on dit que la juste appréciation de l'enjeu de la parenté responsable dépend d'une vision globale de l'être humain. Mais il y a bien sûr une dimension biologique, les anges qui ont beaucoup fréquenté Notre-Dame du Lot à l'époque de Benoît n'ont pas de problème d'ordre biologique. Il y a un aspect psychologique dans la fécondité humaine. Par exemple, vous avez des personnes qui sont bloquées, qui ne parviennent pas à mettre au monde un enfant, et parfois, ça se débloque parce qu'un autre problème de la vie a été résolu. J'ai connu plusieurs cas de personnes qui, après plusieurs années sans enfant, ont adopté finalement un enfant, et alors, après, viennent des enfants. Il y a eu un déblocage qui s'est produit. Donc, ça joue un rôle. L'ordre biologique, l'ordre psychologique, l'ordre démographique. Dès qu'on parle de parenté responsable, viennent des problèmes de démographie. Ce qu'on entend surtout en Occident, c'est attention au danger de la surpopulation, et donc il faut diffuser autant que possible tous les moyens contraceptifs, utiliser la stérilisation pour éviter une trop grande population. Une trop grande population, c'est relatif aux moyens disponibles. Terre est capable d'accueillir plus que les 9 milliards d'individus qui sont actuellement sur la Terre, elle peut en accueillir beaucoup plus. Le problème, c'est les ressources pour vivre, pour se nourrir. Quand il s'agit de problèmes démographiques, comment se situent les pays riches vis-à-vis des pays émergents ou des pays pauvres, c'est d'abord en proposant des moyens contraceptifs ou de stérilisation. Alors qu'il y aurait une autre manière d'approcher le problème, de dire on va augmenter la disposition des biens, on va veiller à ce qu'ils soient mieux répartis sur l'ensemble de la planète, on va aider les populations locales à produire davantage de nourriture. Mais souvent, le problème est abordé dans le sens inverse. On va contraindre les populations des pays pauvres à faire diminuer leur fécondité, par la stérilisation parfois imposée, par la diffusion des contraceptifs, plutôt que de contribuer à leur développement. En Occident, la plus grave menace que nous connaissons sur le plan démographique, c'est le vieillissement de la population. Sauf un ou l'autre pays nordique scandinave, et sauf la France, qui a un assez bon taux de natalité, qui est presque celui qu'il faut pour assurer la continuation de la population autochtone, il faut 2,1 enfants par femme. Pour pouvoir, en tenant compte de la mortalité infantile et des accidents, il faut 2,1 pour assurer le simple remplacement des générations. La France y arrive presque. Il y a un pays ou Scandinave ou deux qui atteint cela. Mais chez nous, on est largement en dessous en Europe, et notamment l'Italie, le Portugal, l'Allemagne. Alors, ça va causer de gros problèmes. Gros problèmes de vieillissement de la population. Donc, manque d'initiative, manque de créativité. Il faut moins d'écoles, moins de... si on continue sur ce chemin-là. Actuellement, ça se compense par l'immigration, très forte actuellement, mais qui n'est pas non plus sans problème, qui pose d'autres problèmes. Donc c'est un problème complexe qui fait partie de la réflexion sur la parenté responsable, mais ce n'est pas le seul critère. Les problèmes sociologiques. Donc, il y a dans la fécondité humaine aussi un aspect sociologique, à savoir comment fonctionnent les allocations familiales, comment les gens sont aidés à avoir un troisième enfant. Si on veut une démographie saine, il faut un troisième enfant. Comment aide-t-on les ménages? Comment organise-t-on le logement pour que ce soit possible de vivre avec les deux parents et trois ou quatre enfants? Mais toutes ces données sont importantes, mais il convient, dit le texte, d'aborder ce problème dans la lumière d'une vision intégrale de l'homme et de sa vocation, et pas seulement suivant l'un ou l'autre de ces aspects que je viens d'évoquer. Dans la lumière d'une vision intégrale de l'homme et de sa vocation, non seulement naturelle et terrestre, mais aussi, et surtout pour des chrétiens, surnaturelle et éternelle. Et puisque dans leur tentative de justifier les méthodes artificielles de contrôle de naissance, alors je reviendrai là-dessus quand nous entrerons dans le détail de l'encyclique, les méthodes dites artificielles de contrôle de naissance, de fait, à l'époque de Paul VI, il y avait une très forte publicité, on était quelques années après la mise au point de la pilule contraceptive, il y avait une forte pression pour développer la contraception chimique, hormonale, artificielle, si on peut dire. Et pour justifier cela, beaucoup ont fait appel aux exigences ou bien de l'amour conjugal ou bien d'une paternité responsable. Eh bien, étant donné cela, comme on a tendu à justifier le recours à la contraception au nom de l'amour conjugal, qui aurait besoin de se vivre dans la paix, par exemple, dans la détente, et pas avec la tension, le stress, est-ce qu'on ne va pas avoir un enfant malvenu, trop tôt, au nom de l'amour conjugal, ou bien au nom d'une paternité responsable, parce que l'humanité n'est pas appelée à proliférer de la même manière qu'une espèce animale. Il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Eh bien, étant donné cela, il convient de bien préciser la vraie conception de ces deux grandes réalités de la vie matrimoniale, à savoir l'amour conjugal et la paternité responsable, en nous référant principalement à ce qui a été récemment exposé, exposé à ce sujet d'une manière hautement autorisée par le deuxième concile du Vatican, dans la constitution pastorale Gaudium et Spes. Je rappelle que le concile Vatican II s'est terminé en décembre 1965, donc cette encyclique vient moins de 3 ans après la conclusion du concile, qui a abordé la question de l'amour conjugal dans la constitution Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps. La question de la contraception avait déjà été posée au Concile, même si c'était une problématique encore relativement neuve, très neuve, mais Paul VI avait préféré, mais nous le verrons en lisant les paragraphes 1 à 6, avait préféré ne pas débattre de cela au Concile même, parce qu'on n'avait pas encore toute l'information voulue. Il a confié une commission à la tâche de préparer une encyclique avec lui. Voilà pour le paragraphe 7. Si on veut aborder ces questions de manière valable, il faut le faire à la lumière d'une vision intégrale de l'homme et de sa vocation naturelle et surnaturelle. Je passe au paragraphe 8. L'amour conjugal révèle sa vraie nature et sa vraie noblesse quand on le considère dans sa source suprême, Dieu qui est amour, le Père de qui toute paternité tire son nom au ciel et sur la terre. Ça, c'est une citation de Éphésiens 3, 15, où Paul explique que toute paternité ici-bas tient son origine de la paternité divine. Quiconque est père ici-bas l'est par participation à la paternité de Dieu. C'est dans ce sens que Jésus disait, ça peut nous choquer dans un premier temps, il demandait qu'on n'appelle personne père ici-bas. Son idée n'était pas d'interdire aux enfants d'appeler leur père papa, mais l'idée était, il n'y a que Dieu qui est absolument parlant père. Et quiconque a une mission paternelle reçoit cela comme une participation à la paternité de Dieu. Un peu comme en France, vous appelez vos prêtres « mon père ». En Belgique, on dit « monsieur l'abbé », mais c'est la même chose parce que « abbé » vient de « ab »,« av » qui signifie « père » en hébreu, « abba », le pape. Pape, c'est, ça vient du mot italien pour dire la paternité. Eh bien, toutes ces formes de paternité, celle d'un père, de famille, mais celle d'un prêtre, celle d'un évêque, celle du pape, sont des participations à la paternité divine. Il n'y a que Dieu qui est absolument parlant père, de qui toute paternité tire son nom, c'est une manière juive de parler, en français on dirait tire sa réalité au ciel et sur la terre. Et le texte cite aussi la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8, « Dieu est amour, il est la source de l'amour. » Je poursuis. « Le mariage n'est donc pas l'effet du hasard ou un produit de l'évolution de forces naturelles inconscientes. » Les forces naturelles et le hasard jouent un certain rôle parce que nous sommes, du point de vue biologique, nous sommes dans le prolongement d'une longue évolution de la vie animale. Mais en tant qu'homme, en tant que doué de raison, en tant que créé à l'image de Dieu, doué d'une âme rationnelle, nous sommes au-dessus de la mêlée de la vie simplement biologique. La sexualité est présente dans le monde végétal, elle est présente dans le monde animal, presque tous les animaux se reproduisent par la sexualité, par le masculin, le féminin, le mâle, la femelle. Mais nous sommes dans le prolongement de cela. Nous sommes, comme disait Aristote, des animaux, mais habités par le logos, habités par la raison. Et tout est transformé par cette nature rationnelle qui est la nôtre. Et donc, nous ne mangeons pas comme mangent les animaux. Si vous mettez un animal en face de la nourriture qui lui convient, il ne va jamais réagir en disant « Tiens, je ferais peut-être bien attendre, je vais attendre que mon frère cochon ou mon frère chat arrive et se serve le premier, surtout s'il est plus âgé que moi. » Non. Ils ne vont jamais décider de jeûner pour témoigner d'une valeur plus haute que la nourriture. Si la nourriture est disponible et qu'ils ont faim, ils foncent dessus. Nous, nous sommes capables de prendre distance. Et même quand vous arrivez au restaurant, même s'il y a un plat qui vous plaît très bien, mais vous ne videz pas tout le plat dans votre assiette. Vous ne mettez pas non plus les pieds sur la table, si c'est plus confortable que pour vous. Et on se sert même, ce n'est pas obligatoire, mais on se sert d'instruments. Entre la nourriture et nous, il y a de la culture, des fourchettes, des couteaux, des baguettes. On ne fonce pas sur la nourriture. Et même dans les pays où on se sert avec la main, on ne le fait pas n'importe comment. Il y a un rituel dans la manière de le faire. Nous sommes dans le prolongement de la vie animale, mais nous dépassons cela. Le mariage n'est pas simplement l'effet du hasard ou un produit de l'évolution de forces naturelles inconscientes. C'est finalement une sage institution du Créateur pour réaliser dans l'humanité son dessein d'amour. Et même avant l'éclosion de la foi chrétienne, de tout temps, même dans les sociétés très anciennes, si on remonte très loin dans l'histoire de l'humanité, il y a des rituels qui entourent le mariage. Il y a un système de dot, par exemple, très présent dans beaucoup de cultures et qui ritualise le mariage. Il y a des rites d'initiation, il y a tout un parcours à faire pour accéder au mariage. Tandis que les animaux n'ont pas du tout ce genre de préoccupation. Il y a des animaux qui connaissent une certaine forme de fidélité, qui forment des couples. Mais pour la plupart des animaux, si une chienne en chaleur passe à proximité d'un chien, il va passer à l'acte. Il y a bien dans certaines espèces animales les parades amoureuses qui sont très belles, mais qui sont une programmation instinctive. C'est seulement dans l'espèce humaine que le mariage est vraiment ritualisé. Et en ce sens, on peut dire, à terme, c'est une sage institution du Créateur pour réaliser dans l'humanité son dessein d'amour. Par le moyen de la donation personnelle réciproque, qui leur est propre et exclusive, les époux tendent à la communion de leurs êtres en vue d'un mutuel perfectionnement personnel pour collaborer avec Dieu à la génération et à l'éducation de nouvelles vies. Il y a pas mal de choses qui sont touchées dans ces quelques lignes. Donc au cœur de l'amour conjugal, déjà sur un plan naturel, a fortiori sur le plan surnaturel chrétien, au cœur il y a une donation personnelle réciproque. On se donne l'un à l'autre. Ça s'exprime dans un contrat sur le plan civil, ça s'exprime sur le plan religieux par un engagement public, une donation personnelle réciproque qui leur est propre et exclusive. On ne se marie pas suivant la loi naturelle et suivant la foi chrétienne, on ne se marie pas avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes. La polygamie, la polyandrie existent dans certaines sociétés, mais ont tendance progressivement à disparaître parce qu'elles ne sont pas conformes au côté très personnel de l'amour où un homme se donne à une femme à un homme, de manière exclusive, à toi et à toi seul. Par le moyen de la donation personnelle réciproque, qui leur est propre et exclusive, les époux tendent à la communion de leur être, en vue de quoi ? Il y a trois buts. En vue d'un mutuel perfectionnement personnel, en principe, les époux doivent, grâce à la donation mutuelle dans le mariage, dans l'amour conjugal, grandir, s'enrichir, se développer, si tout va bien, pour collaborer avec Dieu à la génération, la mise au monde d'enfants, et à l'éducation de nouvelles vies. Donc, croissance personnelle, interpersonnelle, à deux dans l'amour conjugal, mise au monde d'enfants et éducation de ses enfants. Ça, c'est vrai dans beaucoup de sociétés, à condition que celle-ci ne soit pas encore liée à la polygamie. La polyandrie est beaucoup plus rare, une femme qui a plusieurs hommes. Mais dans les sociétés les plus évoluées, on tend toujours vers la monogamie. Et de plus, pour les baptisés, le mariage revêt la dignité de signe sacramentel de la grâce, en tant qu'il représente l'union du Christ et de l'Église. Tous les sacrements, les sept sacrements, sont tous des signes efficaces d'une grâce qui est donnée. Le baptême, de préférence par immersion, mais comme pratiqué souvent en Occident par ablution, est un signe efficace d'un don de Dieu, à savoir qu'un homme, une femme, sont plongés avec le Christ dans sa mort pour, avec lui, avec sa résurrection, émerger une vie nouvelle. La confirmation est un signe, par l'imposition des mains et par l'onction du Saint-Crème, un signe du don de l'Esprit Saint. L'Eucharistie, où le Seigneur se donne à nous sous les espèces du pain et du vin, signifie qu'il veut, dans tout son être, divin et humain, être la nourriture de notre vie. Le pain pour la route, le viatique, le pain pour la route, le pain de vie. L'absolution lors du sacrement de la réconciliation signifie qu'on est dédié de nos péchés et rendu à la communion ou à une communion plus intense avec le Seigneur. L'imposition des mains lors de l'ordination diaconale, presbytérale ou épiscopale, accompagnée d'une prière, signifie que quelqu'un est configuré au Christ serviteur, au Christ prêtre, au Christ grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Bien, le mariage est lui aussi un signe efficace de la grâce. Il signifie que pour ces deux chrétiens qui se marient dans le Seigneur, bien, leur amour va s'enraciner dans l'amour même du Christ pour son Église. Et il va y trouver une solidité, car un couple à trois, l'homme, la femme et le Seigneur au milieu, a une garantie supplémentaire de stabilité, de solidité, parce qu'il s'enracine dans l'amour fidèle, absolument fidèle du Seigneur pour son Église, pour chacun d'entre nous. De plus, pour les baptisés, le mariage revêt la dignité de signe sacramentel de la grâce en tant qu'il représente, rend présente dans l'amour humain l'union d'amour du Christ et de son Église. Le paragraphe 9 décrit les caractéristiques de l'amour conjugal, surtout dans le contexte chrétien. Et vous y retrouverez les quelques caractéristiques que j'ai énumérées ce matin en vous parlant des traits caractéristiques de l'amour conjugal à la lumière du Christ. Paragraphe 9. Dans cette lumière apparaissent clairement les notes caractéristiques, les exigences caractéristiques de l'amour conjugal, dont il est souverainement important d'avoir une idée exacte. C'est avant tout un amour pleinement humain. Humain est souligné par des italiques. Un amour pleinement humain, c'est-à-dire à la fois sensible et spirituel. Comme j'ai dit ce matin, à la fois spirituel et charnel. L'amour conjugal a les deux dimensions. C'est un amour simultanément spirituel, où l'âme, le cœur sont engagés, et charnel. Ce n'est donc pas un simple transport d'instinct, parce qu'on est attiré par quelqu'un. Ce n'est pas non plus un simple transport de sentiments. Ce n'est pas purement affectif. Ce ne serait pas une base suffisante, parce que les affections très sensibles, oui, ça connaît des hauts et des bas. L'amour pleinement humain, à la fois sensible et spirituel, est aussi et surtout un acte de la volonté libre. Ce n'est donc pas un simple transport d'instinct, simple élan d'instinct, simple élan de sentiment, mais aussi et surtout un acte de la volonté libre. On ne dit pas ça très souvent, mais ça fait partie de la doctrine chrétienne de dire que l'amour conjugal, même s'il a bien sûr un aspect érotique, d'attrait pour une personne, un aspect affectif, il est aussi un acte de la volonté. Je veux t'aimer, je veux t'être fidèle, je m'engage à t'être fidèle. comme disait une ancienne formule du mariage, je me lie à toi pour le meilleur et pour le pire. Je le décide pour le meilleur et aussi pour le moins bon. Parce que peut-être bien que le compte en banque du mari ne sera pas toujours aussi bon dans 25 ans qu'il l'est maintenant, parce que son époux ne sera peut-être pas aussi jolie et performante qu'elle l'est maintenant. Il peut avoir des accros de santé, puis avoir des problèmes de chômage, des problèmes financiers. Mais on s'est lié à quelqu'un par un engagement de la volonté libre. Ça, c'est proprement humain. C'est proprement humain de pouvoir aimer avec un engagement de la volonté et pas seulement un incendie sentimental ou un attrait seulement charnel. Il faut plus. C'est aussi et surtout un acte de la volonté libre, destiné à se maintenir et à grandir à travers les joies et les douleurs de la vie quotidienne. Quand je pense à la vocation du mariage, je me dis, c'est peut-être la vocation la plus commune dans l'humanité, la plus spontanée, mais qui a une grande exigence. Mettre un homme et une femme ensemble dans la durée du temps, ce n'est pas rien, c'est très beau. C'est un très beau défi, mais c'est un défi. Alors, choisir le célibat, comme le Seigneur y invite les personnes qu'il appelle à la vie consacrée, ou comme il le demande aux prêtres dans l'Église latine, en tout cas, on ordonne dans l'Église latine des hommes qui peuvent en même temps vivre un appel au célibat, c'est exigeant. Mais vivre en couple, dans l'amour conjugal, c'est aussi très exigeant. Vivre constamment avec la même personne dans la durée du temps, car une fois que le volcan en éruption s'est un peu calmé, hein, quand on n'est plus dans la phase de la flamme première, et que vient l'habitude, les ornières, le quotidien, l'autre commence à faire partie un peu des meubles, on est habitué à sa présence. Et puis on commence à remarquer les défauts en avançant, et les défauts ont tendance à s'accentuer parfois en vieillissant. Eh bien, c'est une école de sainteté. Le mariage est un lieu de sanctification parce qu'il exige beaucoup du cœur humain. Il est appelé à se maintenir, à durer dans le temps, et même à grandir. Parce qu'il y a dans toutes les vocations, il y a une tendance à l'affadissement. On est tout feu, tout flamme au début, après son ordination sacerdotale, on est tout feu, tout flamme, et puis après quelques années, on commence à s'encrouter, on prend des habitudes, on a une moindre ferveur, on devient un bon fonctionnaire, ce qui n'est pas mal, mais ça ne suffit pas, il faut plus, il faut régulièrement ranimer la flamme, d'où l'importance des retraites sacerdotales, comme font les prêtres de Digne actuellement, et comme j'ai vécu la semaine dernière avec les prêtres du diocèse de Gap, et un peu avant avec ceux de Toulon. Il faut se ressourcer régulièrement, et il faut revivre une petite lune de miel. Il y a des lunes de miel dans toutes les vocations, au début de la vie consacrée, au début du sacerdoce, au début du mariage. Et puis après, la phase lunaire connaît une phase décroissante. Il faut recommencer. Se maintenir et grandir à travers les joies et les douleurs de la vie quotidienne, de sorte que les époux deviennent un seul cœur et une seule âme et atteignent ensemble leur perfection humaine. Donc je toucherai seulement très latéralement, parce que ce n'est pas l'objet premier, toutes les tâches pastorales vis-à-vis des couples en difficulté. Mais positivement, moi je suis parfois, vous aussi certainement, impressionné quand je rencontre des couples qui sont mariés depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans et même plus, et qui s'aiment toujours comme deux amoureux. Je dispute parfois un petit peu, mais ça ne dure pas longtemps. Il y a foncièrement une merveilleuse connivence entre eux. Quand j'étais évêque en fonction, j'organisais chaque année des célébrations dans un sanctuaire marial à Beaurain, en Belgique, ou bien à Scherpenheuvel, à Montaigu, dans le diocèse de Malines-Bruxelles, où les couples étaient invités à redire le oui de leur amour conjugal, le oui du mariage. Et c'était impressionnant d'avoir là des centaines de couples. Je leur posais la même question qu'au mariage. Est-ce que vous vous engagez l'un vers l'autre? Oui. Alors, il y avait un oui qui retentissait dans l'assemblée. Bon. Il y avait plusieurs questions auxquelles ils répondaient par un oui, comme aurait dit De Gaulle, franc et massif. Un oui bien prononcé. Puis à la fin de la célébration, après la communion, ils étaient invités à venir bras dessous, se faire bénir par moi et par les prêtres qui étaient présents. Et alors, je les bénissais. Parfois, ils étaient accompagnés d'enfants, de petits-enfants. On bénissait tout le monde. Mais quand je les bénissais, eh bien, il y avait parfois des larmes, des gens qui étaient très heureux d'être bénis à nouveau dans leur union, que ce soit après 6 mois ou que ce soit après 60 ans de mariage. C'était très beau. Et après, il y a parfois des gens qui me disaient, quelques mois plus tard, quand on les rencontrait, ça nous a aidés à redémarrer dans notre amour conjugal. Et tout ça vient de la volonté. C'est pas du purement affectif, il faut une décision profonde. C'est donc un amour pleinement humain, c'est ensuite un amour total. C'est-à-dire une forme toute spéciale d'amitié personnelle par laquelle les époux partagent généreusement toutes choses sans réserve indue et sans calcul égoïste. Si un mariage est authentique, eh bien, on se donne à l'autre sans réserve. On ne peut pas épouser quelqu'un en vérité en lui disant « Je me donne à toi les jours pairs, mais les jours impairs, je me les réserve. » Ou bien « Je t'aime aussi longtemps que tu es jeune et beau. » Ou bien je t'aime aussi longtemps que tu seras en bonne santé. Je t'aime à condition que tu me donnes des enfants. Il y a dans certaines cultures une grande difficulté là. Quand une femme ne donne pas un enfant, la menace de répudiation. Un amour total, sans réserve indue, sans calcul égoïste. Qui aime vraiment son conjoint ne l'aime pas seulement pour ce qu'il reçoit de lui, mais pour lui-même, pour elle-même, heureux de pouvoir l'enrichir du don de soi. On aime une personne, on n'aime pas son compte en banque, on n'aime pas d'abord la couleur de sa peau, on n'aime pas son rang social, on n'aime pas sa beauté purement esthétique, on aime une personne, avec sa grandeur et aussi ses limites. Un amour total. C'est encore un amour fidèle et exclusif, jusqu'à la mort. L'idéal de l'amour humain, sur un plan simplement humain et a fortiori sur le plan chrétien, c'est un amour pour une personne. On ne peut pas se donner totalement à plusieurs personnes à la fois. Un amour fidèle, parce que c'est la même personne pendant toute la vie. On change avec l'âge, mais c'est la même personne. Je suis la même personne que quand j'avais 8 ans, que quand j'avais 30 ans, que quand j'avais 50 ans. C'est la même personne qui continue. Un amour fidèle et exclusif jusqu'à la mort, parce qu'on aime une personne. C'est bien ainsi, en effet, que le conçoivent l'époux et l'épouse le jour où ils assument librement et en pleine conscience l'engagement du lien matrimonial. Fidélité qui peut parfois être difficile. Je répète, c'est pas facile de mettre ensemble un homme et une femme pour la durée du temps. ça demande un grand engagement. Et comme on vit de plus en plus vieux, ça va demander une fidélité encore plus grande. Fidélité qui peut parfois être difficile, elle est parfois mise à l'épreuve, mais qui est toujours possible et toujours noble et méritoire, nul ne peut le nier. C'est beau d'être fidèle à l'autre, même quand il nous déçoit sur certains points, mais on s'est donné à lui, on s'est donné à elle. L'exemple de tant d'époux à travers les siècles prouve non seulement qu'elle est conforme, cette fidélité à la nature du mariage, mais encore qu'elle est source de bonheur profond et durable. Et c'est enfin un amour fécond, qui ne s'épuise pas dans la communion entre époux, mais qui est destiné à se continuer en suscitant de nouvelles vies. Citation du Concile Vatican II, dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes, numéro 50, le mariage et l'amour conjugal sont ordonnés par leur nature à la procréation et à l'éducation des enfants. De fait, les enfants sont le don le plus excellent du mariage et ils contribuent grandement au bien des parents eux-mêmes. Les enfants reçoivent beaucoup de leurs parents, mais les parents reçoivent aussi beaucoup de leurs enfants. Donc, c'est un amour qui ne peut pas tourner en rond sur soi-même, entre nous deux seulement, mais qui doit déboucher sur le don de la vie à d'autres personnes. D'où le problème que connaissent les couples et qui ne parviennent pas à mettre au monde un enfant. J'ajoute déjà le paragraphe 10. L'amour conjugal exige donc des époux une conscience de leur mission de paternité responsable. Comme leur amour est appelé à déboucher sur le don de la vie, il exige des époux une conscience de leur mission de paternité ou de maternité ou de parenté responsable, sur laquelle, à bon droit, on insiste tant aujourd'hui. De fait, on parlait beaucoup à l'époque, et c'est très bien, sur la parenté responsable. Et si on promouvait déjà à l'époque les moyens contraceptifs, c'était en utilisant comme argument, il faut être parents de manière responsable et donc il faut pouvoir espacer les naissances ou bien ne pas avoir d'enfants quand ce n'est pas le moment. En soi, c'est vrai qu'il faut insister sur une parenté responsable. Mais elle doit être exactement comprise. Elle est à considérer sous divers aspects légitimes et liés entre eux. Et le texte mentionne quelques aspects. Par rapport au processus biologique, car l'amour conjugal et la transmission de la vie ont évidemment un aspect biologique, physiologique. La paternité responsable signifie connaissance et respect de leurs fonctions. Un homme, une femme, unis dans le mariage, doivent connaître comment fonctionne la biologie et la physiologie. Je me souviens quand j'étais professeur à l'université, j'organisais parfois des soirées d'information pour des étudiants et étudiantes sur les méthodes non contraceptives de régulation des naissances. Et je voyais le regard émerveillé des étudiantes quand elles apprenaient, certaines ignoraient la complexité et la beauté aussi les contraintes de la physiologie féminine. Comment la femme est construite, en quelque sorte, à divers niveaux pour pouvoir donner la vie. Et certaines découvraient cela, et le découvraient avec bonheur. Donc il faut connaître comment nous fonctionnons sur ce plan. Connaissance et respect de leurs fonctions. L'intelligence découvre dans le pouvoir de donner la vie des lois biologiques qui font partie de la personne humaine. Nous ne sommes pas des anges. Et donc, la production des spermatozoïdes, l'ovulation, tout cela comporte des lois biologiques qu'il faut connaître. Par rapport aux tendances de l'instinct et des passions, la paternité responsable signifie la nécessaire maîtrise que la raison et la volonté doivent exercer sur elle. Dans l'amour humain, il y a une part instinctive, il y a une part érotique, qui fait partie d'un amour spirituel et charnel. Mais il doit y aussi avoir une maîtrise de cela, une possession de cela. Les êtres humains ne sont pas appelés à s'accoupler de la même manière que les animaux. Ça doit être imprégné d'humanité, donc lié à l'usage de notre raison et de notre volonté. Par rapport aux conditions physiques, économiques, psychologiques et sociales, la paternité responsable s'exercera soit par la détermination réfléchie et généreuse de faire grandir une famille nombreuse, soit par la décision prise pour de graves motifs et dans le respect de la loi morale d'éviter temporairement ou même pour un temps indéterminé une nouvelle naissance. Les époux doivent connaître aussi, gérer les conditions physiques, la santé. Il y a des moments où, en raison de la santé d'un des deux, il faudra éviter une naissance. Il y a aussi des gens qui, parfois, en tenant compte de la santé, s'empressent d'avoir un enfant avant qu'un problème de santé rende une conception impossible. Mais il faut tenir compte des aspects physiques, psychologiques. La psychologie joue un grand rôle dans la vie conjugale. Le conjoint n'est pas toujours également disponible, et surtout du côté de la femme. Il y a des moments de disponibilité moindre et de disponibilité plus grande. Il faut tenir compte de ces facteurs. Il faut tenir compte aussi, sur le plan psychologique, de l'état de surmenage éventuellement. Si un des deux est en train de vivre une tendance un peu dépressive, mais il faut tenir compte de cela. Il faut tenir compte des réalités sociales, des réalités économiques et des conditions de logement dans lesquelles on se trouve. Donc la paternité responsable s'exerce alors par une appréciation, un jugement, la détermination réfléchie et généreuse de faire grandir une famille nombreuse, ou bien la décision prise pour des motifs sérieux et en utilisant des moyens acceptables d'éviter temporairement ou même pour un temps indéterminé une nouvelle naissance. La paternité responsable comporte encore et surtout un plus profond rapport avec l'ordre moral objectif établi par Dieu et dont la conscience droite est la fidèle interprète.